Un collectif de citoyens s'est organisé contre l'installation d'un méga-méthaniseur à Bailleul. Cécile et Gérard Chombard sont là pour nous en parler. Bonjour, bienvenue à Micro Rebelle.
Bonjour, merci. Bonjour.
Alors, la méthanisation, c'est un processus biologique de dégradation des matières organiques. Ça peut s'appeler aussi biométhanisation, vous m'arrêtez si je me trompe. Et j'ai vu également digestion anaérobie, parce que c'est en absence d'oxygène que ce procédé crée du gaz, du méthane. Et donc, c'est souvent présenté comme une alternative biologique pour créer du gaz. Et pourtant, vous levez contre ce méga-méthaniseur, l'installation d'un méga-méthaniseur à Bailleul. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, juste une petite précision, c'est que pour nous, ce n'est pas un méga-méthaniseur, c'est-à-dire qu'il représente une taille moyenne pour les méthaniseurs qui s'installent aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, ça représente 70 tonnes jour. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, est dans la moyenne. Il y a des choses plus grosses, il y a des choses plus petites. Pour le côté technique et du processus, je vais laisser parler mon mari.
Oui, donc la méthanisation, en deux mots, j'expliquerai ça. Alors, on présente ça sous une forme biologique ou écologique, ce n'est pas, à mon sens, une réalité. Ce qui est produit par ce procédé, comme vous l'avez expliqué dans le process, ce qui sort du méthaniseur, en fait, du digesteur, c'est le biogaz. Le biogaz n'est pas le méthane. Il est composé en partie de méthane dans l'équivalence de 60-70%. Et après, vous avez énormément de CO2 et d'autres gaz qui viennent se greffer là-dessus, notamment le sulfure d'hydrogène, un gaz mortel, hein, qui se dégage également de ce biogaz.
Donc un méthaniseur est aussi un digesteur ?
En fait, si vous voulez, le process, c'est que vous avez un digesteur qu'on alimente et un post-digesteur. Ça se fait en deux étapes. Les gaz sont récupérés sur les hauts des cuves pour être traités ensuite. Ce gaz doit subir donc une épuration pour en sortir le méthane. Alors aujourd'hui, on prend sous excuse de recycler les déchets, donc le fumier, le lisier, ce sont des matières qui sont très peu méthanogènes, ce qui amène les agriculteurs, les énergiculteurs, à cultiver des plantes, à cultiver pour alimenter le méthaniseur. On cultive nécessairement le maïs, le raie gras, le seigle. Si vous voulez, il y a un détournement des terres nourricières pour produire ces gaz, quoi.
Oui, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que vos inquiétudes sont liées à la pollution, aux conséquences a posteriori, ou à la question de la surproduction, ou également des matières utilisées pour produire ce gaz ?
En fait, il y a déjà plusieurs choses. La première chose, il y a la façon dont on nous vend le processus. C'est-à-dire que pour nous, c'est un gros mensonge. Effectivement, il y a le recyclage des déchets pour en faire de l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on nous vend. On nous vend aussi que ce qui en résulte, le digesta, est un bon fertilisant. Alors, nous, on n'est pas d'accord sur ça, dans le sens où, quand ils disent c'est un bon fertilisant, c'est-à-dire que c'est un bon fertilisant au même terme que les fertilisants chimiques. Donc pour nous, c'est comme si vous nous demandiez de choisir entre la peste et le choléra. Pour eux, c'est mieux parce que pour l'instant, ils ne le payent pas, donc ils ne dépenseront pas d'argent pour leurs fertilisants par rapport à ce qu'ils dépensent aujourd'hui, mais le résultat sur la terre est le même, si ce n'est pire. La deuxième chose, c'est effectivement les dérives. Comme disait mon époux, pour nourrir ce méthaniseur, puisque une fois qu'ils ont signé leur contrat, ils se doivent de produire le gaz, ils se doivent de remplir le contrat. Les déchets, enfin ce qu'ils appellent déchets, là aussi c'est une aberration pour nous, ne produisent pas suffisamment, parce que d'un déchet à un autre, effectivement, les pouvoirs méthanogènes sont différents. Et en plus, il leur faut un certain équilibre entre les intrants. Donc il y a l'accaparement des terres pour utiliser ces terres pour nourrir le méthaniseur. Aujourd'hui, ce sera plus rentable de cultiver pour méthaniser que de cultiver pour nous donner à manger. Donc c'est quand même, les paysans qui voudront s'installer, pour nous les vrais petits paysans, n'auront plus la possibilité. C'est déjà très difficile aujourd'hui, mais avec ce que ces terres apporteront aux méthaniseurs, par la culture, par la revente de ces cultures, les terres agricoles vont prendre des valeurs plus, et il sera encore plus difficile pour nos nouveaux paysans, nos nouveaux exploitants, d'acheter ces terres. Et il y a aussi effectivement les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, dans notre projet situé à Bailleul, on a reçu la dernière décision de la DREAL sur laquelle il est stipulé à la fois le fait que ce projet puisse avoir des incidences et sur l'environnement et sur la santé humaine, qu'il est nécessaire d'étudier, et en même temps, on leur enlève l'obligation de faire une étude environnementale. Donc, si une instance dit à la fois que ça peut être dangereux, et ça l'est, ça peut l'être, mais et qu'en même temps on ne fasse pas les études pour être sûr que ça ne le soit pas, il y a de l'incompréhension. Donc il y a le discours, c'est-à-dire ce qu'on nous vend, il y a les dérives, il y a les conséquences. Et après, il y a aussi, excusez-moi, le côté pécunier des personnes qui subissent aussi ces méthaniseurs. Parce qu'aujourd'hui, si ces méthaniseurs s'installent, c'est aussi grâce à des subventions qui sont de l'ordre de 10 à 30%. Et que même nous, dans notre projet, dans le projet porté par les agriculteurs sur Bailleul, un des porteurs indique même que si il table sur les 10%, donc la barre basse des subventions. Si ces 10% ne sont pas donnés, le projet ne sera pas réalisable. Ce qui veut dire que nos subventions, payées par nos impôts, rendent possible cette installation de méthaniseur à côté de chez nous. C'est nous qui allons subir les conséquences. Nous et le sol et la biodiversité, etc. Mais quand je dis nous, ce n'est pas nous seulement qui habitons juste à côté, hein, c'est aussi toutes les personnes qui seront à côté des terres sur lesquelles il y aura les épandages de DJSA. Et c'est nous aussi qui allons perdre l'argent sur nos maisons. Donc à un moment donné, on est perdant sur tout. Et ça, ce qui est le plus terrible, c'est sous prétexte de transition écologique. Et ça, c'est aberrant.
Ce gaz, il sera en plus vendu après aux usagers. Qui sont les investisseurs? Comment ça va marcher au niveau pécunier?
Alors, ce sont les grands groupes, mais je vais laisser parler mon époux.
Alors, il faut savoir qu'actuellement, le méthane est racheté à une valeur 4 à 5 fois plus cher que le gaz fossile qui vient de Russie ou de Scandinavie. Ce sont principalement GRDF qui développe ses réseaux, pour ce méthane, quoi.
Donc ce sera un produit ensuite vendu au plus offrant, vendu aux usagers de GDF, etc.
Il est prévu pour 2030 environ 10% de gaz vert, entre guillemets, hein, on est bien d'accord. Pour moi, ce n'est pas un gaz vert, donc j'appellerais ça le méthane. Il est prévu que d'ici 2030, il y ait donc 10%. Il faudra environ 9000 méthaniseurs pour alimenter les réseaux GRDF. Ça veut dire qu'obligatoirement, ils passeront par des cultures dédiées ou des cives, parce qu'il est impossible, aujourd'hui, on n'a pas la biomasse, on n'a pas la matière première, c'est-à-dire le fumier ou le lisier ou d'autres produits qui sortent des cultures pour alimenter tous ces méthaniseurs. Bon, vous avez l'équivalence, un méthaniseur moyen, c'est 70 tonnes jour, c'est le projet de Bailleul. Ça vous fait quand même 25 000 tonnes d'intrants, c'est énorme, quoi. Il y a un projet de permis a été déposé, je pense, sur Courcouët-sur-Logne. Courcouët-sur-Logne, c'est un projet de 680 000 tonnes. C'est environ 2 000 tonnes journaliers. 2 000 tonnes, c'est l'équivalent de 200 camions, quoi, par jour qui vont passer dans les environs pour alimenter ces méthaniseurs. Il faut savoir que ça regroupe, c'est une coopérative, ça regroupe, je pense, entre 200 ou 300 cultivateurs qui vont s'investir là-dedans.
Donc ce problème, il est très symbolique, paradigmatique des problèmes liés à la croissance verte, qui y a une apparence de dorure, j'allais dire de verdure autour de ce projet. On fait croire que, comme c'est une transition vers du biogaz, on est plus propre écologiquement, etc. Et en fait, le projet a les deux problèmes de la croissance et de la production industrialisée. Enfin, en amont, on part quand même sur des tonnes et des tonnes de matières organiques produites simplement pour produire ce gaz, qui ensuite n'est pas considéré comme un bien public, mais comme un produit qui va ensuite être vendu. On a aussi le problème de l'excès. Là. Si on veut remplacer toutes les productions de gaz GRDF, ne plus faire d'import par rapport au gaz russe, etc., c'est 9 000.
9 000 pour l'équivalence de 10%, ce qui veut dire que, imaginez qu'on voudrait être totalement indépendant, il en faudrait peut-être 50 000, ce qui est impossible, puisque en Allemagne, je vais prendre le cas de l'Allemagne, en Allemagne, il faut en gros 350 hectares de culture pour alimenter un méthaniseur. En Allemagne, il doit y en avoir entre 10 ou 11 000, je pense. C'est énorme. L'Allemagne n'avait pas assez de production de maïs, notamment parce que le maïs est principalement cultivé dans cette dérive, n'avait pas assez de maïs pour alimenter donc ses méthaniseurs. Et l'Allemagne était obligée d'importer de Tchéquie et de Pologne, bon, les pays limitrophes, pour faire le complément de maïs. Donc et aujourd'hui, l'Allemagne, il faut savoir que l'Allemagne fait marche arrière à ce sujet, ne subventionne plus les méthaniseurs, donc il n'y a plus de nouvelle création de méthaniseurs. Et il semblerait que d'ici 2035, vous allez vous avoir beaucoup de méthaniseurs qui vont être à l'arrêt.
D'accord. Et toutes ces imports de maïs, par exemple, pour remplir les méthaniseurs, étaient faits en camion, j'imagine. Et donc ça recrée un coût carbone énorme.
Absolument. Donc le bilan carbone n'est pas nécessairement, ne va pas nécessairement dans le bon sens.
Et là-dessus, on n'a pas d'études sur ce que coûte en coût carbone un méthaniseur. J'imagine qu'il n'y a pas d'études précises là-dessus.
J'en ai pas connaissance, mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement incite les agriculteurs à faire ces méthaniseurs. C'est pour ça qu'on leur rachète, qu'on les subventionne, c'est pour ça qu'on leur promet un contrat avec une certaine rentabilité. Pour nous, on n'a rien contre les agriculteurs. Pour nous, les agriculteurs sont pris au piège d'un système. Forcément, on leur dit, vous faites ceci, vous travaillez dans le bon sens par rapport à l'écologie puisque vous retraitez des déchets qui ne sont pas de vrais déchets. Et puis, en plus, vous avez un revenu décent. Donc forcément qu'ils y vont, forcément, ça se comprend. Mais c'est pas la bonne solution. Après, dire que c'est vert, on disait que c'était vert. Les batteries électriques, on disait que c'était vert. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Là, c'est comme là, on se bat contre la sécheresse. Les cultures de maïs, c'est une culture qui est très consommatrice d'eau. Donc il y a plein de choses qui sont pas cohérentes en fait, mais le gouvernement pousse à ça. Alors c'est pareil quand on nous dit vous n'êtes pas content, vous allez payer le gaz moins cher. Expliquez-nous comment on va payer un gaz moins cher alors qu'il est racheté 3 à 4 fois plus cher que ce qu'il n'est aujourd'hui. Pareil, incohérence, c'est ça du début à la fin. Et sauf que les gens, si, et ça se comprend, si s'ils ne sont pas touchés de façon locale, ne s'y intéressent pas forcément et s'arrêtent juste au traitement des déchets pour en faire une énergie. Il faut savoir quand même que quand un procédé semble trop beau, souvent c'est qu'il y a des trésors cachés.
Où en est l'état du projet à Bayeul ?
Tous les feux sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore déposé le permis, à ce que je sache, il y a quelques jours, c'était pas encore déposé, la demande de permis et d'exploiter et de construire. Par contre, toutes les démarches en amont sont, à notre connaissance, validées, c'est-à-dire les demandes d'études au cas par cas pour le forage, pour l'épandage et pour l'unité de méthanisation. Et d'ailleurs, pour le forage et l'épandage, ils étaient soumis à études environnementales. Pour le CERFA final sur l'ensemble du projet, ils ne le sont plus.
Est-ce qu'il y a une concertation publique ou c'est quelque chose qui est complètement lié au groupe qui s'installe, qui est en négociation avec les pouvoirs publics
C'est même pas une question de négociation avec les pouvoirs publics. Ils montent leur projet, comme je vous dis, ils sont incités. Donc il faut savoir qu'il y a même des appels pour faire que les agriculteurs déposent des projets de méthaniseurs. Non, en fait, nous, ça fait concrètement 30 mois qu'on se bat contre ce projet. On a eu la chance d'avoir écho de ce projet assez vite. Donc c'était en novembre 2018, mais ça faisait déjà plus d'un an, et demi que les porteurs de projets travaillaient sur ce projet. Donc concertation, il y a eu une première création d'association qui n'était pas la nôtre. Il y a eu une rencontre avec l'ancienne municipalité, la chambre d'agriculture et les porteurs de projets. Il s'avère que c'était plus une présentation de leur projet qu'autre chose. Il n'y a pas eu, enfin, il y a, nous, on n'a pas pu trop parler de ce que l'on reprochait à ce type d'installation. Du coup, ils ont fait leur démarche. Après, la nouvelle municipalité, comme la plupart des municipalités, se cache sur le fait que ce ne sont pas elles qui sont décisionnaires, puisqu'en fait, à partir du moment où c'est injection dans le réseau, c'est le préfet qui donne le permis et de construire et d'exploiter. Ceci étant, il existe des maires courage qui défendent leurs terres, qui défendent leurs riverains. Nous, ce qui est sûr, c'est que même si ce n'est pas la municipalité qui est décisionnaire, si toutefois ce projet venait à voir le jour, si toutefois il y avait des soucis, le maire est responsable de ses administrés. Donc, il sera porté responsable de ce qui se passera.
J'allais vous demander, mais vous avez anticipé la question, comment luttez-vous et également comment une auditrice ou un auditeur qui voudrait rejoindre votre combat contre le méthaniseur, soit à Bailleul, soit dans sa localité, peut faire? Quel conseil, quelle piste donnez-vous?
Alors, actuellement, l'association, donc non à la méthanisation, se bat sur un plan local, évidemment, mais aussi sur un plan régional et je dirais même sur un plan national. À savoir que j'ai repris dernièrement, l'association fait partie du CNVMCH, donc le canal Vigilance Méthanisation, national bien sûr. Ça regroupe un ensemble d'associations sur le territoire national et si vous voulez, on a des représentants un peu partout en France. Et moi personnellement, j'ai repris une dizaine de départements, donc tout ce qui est Hauts-de-France et Basse-Normandie. On se bat donc de ce côté-là au niveau national. On se bat également, on est impliqué au niveau de la Confédération Paysanne et des Amis de la Conf, et on s'entraide au niveau de toutes les associations environnementales. Une personne qui voudrait rejoindre notre mouvement ou un autre mouvement, il n'y a aucun souci, c'est relativement facile. Mais ce qu'on appelle quand même, c'est on demande aux gens de s'informer sur le process. On ne demande pas aux gens de se positionner pour ou contre. Je pense que la décision appartient à chacun, mais il faut impérativement que les gens s'y intéressent formellement. C'est trop beau, c'est vendu trop beau et c'est tout à fait l'inverse malheureusement.
En fait, ce qu'on cherche, c'est surtout à sensibiliser, à faire que les gens se questionnent. C'est ce qu'on disait, chacun est à même de prendre sa position. On n'oblige personne à être contre la méthanisation, mais être pour la méthanisation, pour le traitement des déchets, pour en créer de l'énergie, c'est pas suffisant. Il y a plein d'autres côtés. Comme j'ai l'habitude de dire, je pense que si les gens connaissaient ou s'intéressaient à tout le reste, ils ne se positionneraient pas aussi facilement pour la méthanisation. Donc on agit, oui, on sensibilise, on fait des marches, on fait des journées d'information sur la méthanisation. On organise là cette fois-ci le 5 novembre prochain à Bailleul. Une conférence débat avec le couple de Lydia et Claude Bourguignon, qui sont des ingénieurs agronomes qui ont créé leur laboratoire d'analyse indépendant, justement sur la vie des sols, le processus de la méthanisation, ses dérives et ses conséquences. Ce qu'on veut, c'est vraiment, vraiment que les gens prennent conscience de ce que c'est. Après, sur le plan local, donc pour notre projet, à partir du moment où le permis de construire sera déposé et si toutefois il était accepté, la lutte sera différente. Bien sûr, on essaiera toujours de sensibiliser les gens, mais il faudra qu'on soit beaucoup plus vindicatif, dans le sens où il faudra impérativement que... Enfin, ça sera de l'urgence, quoi. Ce sera vraiment de l'urgence pour que ça ne se fasse pas. Une fois que ça se fera, ça sera... On pourra essayer de limiter les dégâts, essayer d'être vigilant à ce qui se passe, mais il sera trop tard. Et nos sols, dans 15 ans, on en reparlera. Dans 15 ans, on réécoutera cette interview et on dira, ouais. Et malheureusement, on l'avait dit.
Entre la naissance d'une ZAD là-bas, par chez vous, à Bailleul, si le projet s'avère être validé, démarré?
On a le terrain pour.
Oui, on y a pensé, sincèrement, ce n'est pas exclu. J'amènerai encore un élément quand même par rapport aux épandages de digestat, donc le produit final qui ressort. Bon, d'un côté, vous aurez le gaz avec avec toutes les pollutions à ce niveau-là. Et ensuite, vous avez le produit final, donc cette sorte de purin qui sort des digesteurs, qui s'appelle le digestin. Il faut savoir, sur la commune, le projet de Bailleul, les épandages se feront sur 7 communes avoisinantes. Il faut à peu près une équivalence de 1000 hectares pour pouvoir répandre ce produit. Ce produit est chargé notamment d'ammoniac, énormément d'ammoniac. L'ammoniac est une matière très volatile et est un gaz très volatile. Il doit être enterré systématiquement à l'épandage. Ce gaz, quand il s'échappe dans l'air, parce que comme il est volatile, je vous l'ai dit, quand il s'échappe dans l'air, se mélange à l'oxygène et forme le protoxyde d'azote, qui lui est un gaz à pouvoir réchauffant global 300 fois supérieur au CO2. Donc le dioxyde de carbone. Les personnes qui créent donc ces méthanisures vous disent toujours « Oui, mais il faut récupérer le méthane qui s'échappe des tas de fumée, tout ça, on n'en est plus là. » Moi, j'ai dit aujourd'hui, on fabrique ce méthane. Voilà.
Et pareil par rapport au fait qu'on dise « Oui, mais on récupère le méthane des vaches, etc. » Déjà, les vaches, si on les voyait un peu plus en pâturage, qu'elles prenaient le temps de brouter, elles produiraient moins de ce gaz néfaste pour l'environnement. Il y a d'autres solutions. Je ne suis pas végétarienne, mais ceci étant, si nous consommions mieux et moins, ça ferait peut-être pas autant effet, enfin, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il y a des choses à faire en prenant plus conscience de ce qu'on fait, mais bien sûr, ça n'apporte pas d'argent. Et ça, du coup, ça n'intéresse personne.
En tout cas, à court terme. Et puis, oui. Ça apporte de l'argent à un intérêt particulier à ce groupe d'investisseurs-là, pour ce méthaniseur-là. Mais du coup, la soi-disant transition écologique ne peut pas continuer à fonctionner par investissement privé avec des rendements à court terme. C'est pas comme ça que je vois j'ose même pas dire la croissance verte, plutôt la décroissance pour une protection de l'environnement, de l'écologie. On sait pourtant que des alternatives existent. On parlait des camions, là, qui, rien que ça, par exemple, hein, le ferroviaire a été diminué énormément, alors que transporter à la fois ce gaz, mais aussi les matières pour remplir le méthaniseur en camion, c'est absurde.
Mmh. Il faut savoir quand même, il faut reconnaître, on est un peu tous responsables dans le sens où on est de plus en plus consommateurs d'énergie. Donc, si vous voulez, ces énergies nouvelles ne remplaceront peut-être pas le gaz fossile. On consomme, on n'a plus assez d'électricité, on n'a plus assez de gaz, on est toujours demandeur. De toute façon, on est de plus en plus consommateurs de. C'est la vie de tous les jours qui fait que.
Ça viendra s'ajouter à la consommation. Ce sera du disponible. Et par contre, juste aussi une petite précision, c'est que souvent, comme on est contre la méthanisation, on nous dit écolo-bobo. Alors, je ne suis ni écolo ni bobo. Je n'ai rien contre les écolos. Mais nous sommes pour protéger le vivant et respecter le vivant.
Et alors, si je comprends bien, donc pour un peu répéter les grandes lignes qu'on a dit en début d'interview, ces créations de biogaz vont être utilisées pour leur aspect méthane avec la séparation et tout ce que ça induit au niveau chimique et en diffusion. Et de l'autre côté, ça crée un pesticide de type...
Un fertilisant
qui rend les terres arables, finalement. Enfin, je pensais à ça, qui rend les terres...
Oui, excusez-moi de vous couper. Ce n'est pas un fertilisant, malheureusement. C'est vendu comme fertilisant. Aujourd'hui, ça s'appelle un fertilisant, puisqu'il faut savoir que le digesteur, à l'origine, était appelé déchet. Le digesteur a été appelé déchet, et puis il y a eu un cahier des charges qui a été changé. Aujourd'hui, on l'appelle amendement ou fertilisant. Et le fumier qui a nourri la terre depuis la nuit des temps, qui était vraiment un amendement, lui, aujourd'hui, on l'appelle déchet. Vous comprenez un peu le process où on donne des dénominations différentes et puis les produits restent les mêmes. Mais on inverse un peu les rôles quelque part.
Oui, parce que finalement, et c'était un peu le sens de ma question, la terre qui subit ce digestat pendant des années est rendue moins fertile au fil
Absolument.
Du temps, c'est ça
enfin, De par l'ammoniac, vous tuez la vie des sols. Il faut savoir que 70% du monde végétal ou animal se retrouve pratiquement dans le sol, quoi.
Donc c'est rempli. Des espaces où les vaches peuvent venir ensuite en pâturage. On imagine à long terme, à moyen long terme, ces champs-là sont même dangereux pour...
Si vous voulez, aujourd'hui, le gouvernement, je ne sais pas si vous vous rappelez des dernières élections municipales, on parlait beaucoup de bio dans les cantines pour les enfants. Ça a été vendu dans tous les coins de France. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités de le faire. Et en plus, on n'aura plus la capacité de le faire par après, étant donné que les terres ne seront plus accessibles. Le gouvernement appuie un agrobusiness, donc une agriculture industrielle, au détriment d'une paysannerie qui pourrait produire ce bio ou au moins de la culture raisonnée. On va totalement à l'inverse de ce qui devrait se faire. Et pour revenir sur la pollution du digestat, ben, le digestat pollue les sols, pollue l'eau, donc les nappes phréatiques, par ruissellement ou par lessivage, et pollue l'air.
Une autre question que j'avais aussi, c'est j'ai entendu aussi dire que pour apporter de la matière organique dans les méthaniseurs, ça encourageait aussi l'élevage d'élevage de manière intensive.
Ben effectivement, alors ce qui est complètement ahurissant, c'est que j'ai défendu un dossier dernièrement dans lequel l'agriculteur disait « je vais faire un élevage de 600 ou 700 bovins pour pouvoir être autonome ». Il faut prendre conscience de par ces réflexions, c'est que aujourd'hui, la bête, la vache ou le bovin notamment, devient un produit secondaire. Le produit primaire sera le fumier ou le lisier. Mm-hmm. C'est dramatique.
J'ai retrouvé la question que je voulais vous poser, c'est également, est-ce que les agriculteurs qui passent à des champs pour fournir le méthaniseur sont considérés dans les agriculteurs qui reçoivent une aide à la transition biologique ?
Il y a le problème de la PAC. Aujourd'hui, ils sont subventionnés pour cultiver certaines terres. Je parle de la PAC, c'est voté dernièrement, c'est en débat même. Ils sont subventionnés une première fois pour leur terre, pour la culture, et une seconde fois pour pouvoir alimenter les méthaniseurs. C'est-à-dire qu'ils sont, subventionnés pour produire ce fameux biogaz. C'est là où il y a un non-sens.
Oui. Donc on peut se retrouver avec des agriculteurs exploitant des champs qui sont extrêmement eux-mêmes chimiques, nocifs, qui ne sont pas du tout bio en
absolument,
tout cas,
oui.
Et être subventionnés avec le label bio. Parce que je me pose
Non, je ne pense pas qu'ils aient ce label.
Pas le label bio, mais au sens où ils ont des subventions qui font partie du package aide à la transition écologique.
Absolument, ça oui, puisque le biogaz est considéré comme un produit, il est dans la transition, dans le pacte de la transition énergétique.
Ouais, cette lutte, je trouve, elle a vraiment un aspect intéressant de montrer le problème de la contradiction de la transition écologique dans un système économique capitaliste. Y a des non-sens, des contradictions, des excès, de la pollution. On continue à utiliser les mêmes circuits de pollution pour le transport. Et c'est toujours, finalement, les investisseurs privés qui vont récupérer la
absolument,
mise à la fin.
Ouais,
et les conséquences,
par contre, les lobbies qui gèrent le truc. Hein. Je pense que c'est une question financière au départ. Je pense qu'il y a des gens qui s'en mettent plein les poches et puis...
En fait, je dis toujours les choses un peu crûment. Les lobbyistes payent les campagnes électorales de nos chers dirigeants. Donc ce ne sont pas notre gouvernement qui gère notre système, hein. Ce sont les lobbyistes, il faut bien le savoir. Alors, c'est un peu contradictoire parce que pour changer les choses, il faut bien voter, mais pour voter, il faut quelqu'un d'éthique. Quelqu'un d'éthique en politique, c'est compliqué. Et quand vous l'êtes, vous n'êtes pas assez politique, donc on ne vote pas pour vous. Donc...
Et puis ça demande du travail, parce que parfois, des lobbyistes proposent des projets de loi déjà tout écrits, tout faits, à des députés, même à la Commission européenne, des projets de loi tout écrits, il n'y a plus qu'à signer. C'est plus facile, effectivement, de procéder ainsi.
C'est même pas une question... Enfin, je pense même pas que ce soit une question de facilité. Je pense qu'il y a des gens vraiment de conviction qui vont aller justement travailler et se battre contre le fait de signer de façon facile ces projets de loi. Et il y a ceux qui ne cherchent à être que présents sur la place politique. Et du coup, ils ne cherchent même pas. Et ils se rendent peut-être même compte qu'après de ce qu'ils ont signé. Excusez-moi, hein, mais on est dans un système vraiment...
C'est pour ça que les mettre face à leurs responsabilités, comme vous le faisiez en début d'interview, en disant que c'est quand même le maire qui aura la responsabilité
Exactement.
De la santé publique s'il y a des problèmes de santé
Exactement.
Publique.
Exactement. Et ça, le message est passé. Hein, notre maire le sait. D'ailleurs, l'association a même porté une plainte contre un accident de méthaniseur qui a eu lieu à Volkerinkov, où personne ne bougeait. Et en fait, on a déposé plainte et rien ne bouge. Mais par contre, à Bailleul, si jamais ça venait à arriver, je vais vous dire que ça va bouger.
Et comment est reçu votre message à Bailleul et quand vous allez en parler à des gens
Tout dépend. Alors, des gens qui s'arrêtent juste à ce qu'on leur présente et puis qui sont pris dans leur vie personnelle et vie professionnelle et qui n'ont pas de temps, selon eux, à perdre dans ça. Et bon, ça se comprend. Enfin, nous on passe à côté de beaucoup de temps personnel, justement, pour combattre ce procédé. Mais après, il y a les gens qui nous écoutent et qui sont conscients, mais qui n'en ont pas le temps, ou qui n'en trouvent pas le temps. Et après, il y a des gens convaincus. Il faut savoir, on a beaucoup de chance, nous, à Bailleul, d'avoir une équipe formidable. Mais quand je dis équipe, c'est que déjà, on a un bureau très soudé et très actif. Et on a des adhérents, mais super. Mais comme on dit, il y a un échange. C'est-à-dire que nous, on est présents parce qu'eux sont présents quand on leur demande. Et eux sont présents parce qu'on est présents. Enfin, c'est vraiment un échange et c'est fort. Et on a une super asso. Et ne serait-ce que pour vivre ces moments d'échange, de rencontre, de solidarité, d'amour, je dirais même. Parce que c'est vraiment, et rien que pour ça, ça vaut le coup de faire une asso et de se battre ensemble contre quelque chose et pour défendre ses convictions, pour défendre le futur de nos terres, le futur de nos enfants et dire, on n'a pas laissé faire. Alors peut-être c'est pas sûr qu'on gagnera, mais on aura tout fait pour, et on peut se regarder, on peut garder la tête haute et se regarder dans un miroir sans avoir aucune honte.
Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le collectif Non à la méthanisation ou le réseau national de lutte contre la méthanisation.
Qui est le collectif national Vigilance Méthanisation Canal Historique, qui s'occupe de regrouper toutes les associations au niveau national et pour lequel vous pouvez trouver énormément d'éléments concernant la méthanisation.
Donc nous, si jamais c'est non à la méthanisation à Bailleul, le mail non à la méthanisation à bailleul@gmail.com.
Sans tirer, tout d'accord.
Tout. Alors c'est très long, mais c'est très simple. Donc, et la page Facebook où on relaie pas mal d'informations. Et puis, je vais vous donner mon numéro de téléphone puisque c'est celui qui apparaît partout. Donc, c'est le 06 20 32 15 53. Voilà, on est là pour aider, pour épauler et pour aussi des fois se prendre des mauvais appels, mais c'est pas grave.
Le fardeau de la lutte,
c'est ça.
D'oser s'engager.
C'est ça. Un grand merci à vous pour l'occasion que vous nous avez donnée.
Ben, merci à vous, Cécile et Gérard.
Merci à vous.